Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là comme chaque soir, 20h-21h30 sur BFM Business. Vous attendez votre rendez-vous tech, et bien vous ne serez pas déçus, vous le savez, du lundi au jeudi on est là pour 90 minutes d'actu tech. Avec au sommaire en ce mardi, eh bien on va revenir sur le rapport qui préconise en fait certains usages pour les enfants, notamment le smartphone et pas de téléphone avant 11 ans et pas d'écran avant 3 ans. On va revenir sur ces mesures assez fortes dans quelques instants pour le débrief. Et puis là, cette polémique qui commence à enfler du côté de chez Apple, qui broierait des iPhones qui seraient pour certains encore utilisables. Ça aussi, c'est quand même un sacré coup dur pour Apple. Et puis tiens, une start-up intéressante tout à l'heure qu'on recevra, une IA qui traduit la langue des signes, c'est la start-up Iris. Encore une fois, une belle innovation que l'on doit grâce à l'intelligence artificielle. Et on parlera de MedTech aussi, avec une autre société qui vient de lever 5 millions d'euros et qui arrive à analyser des maladies, neurodégénératives, simplement en analysant en fait le mouvement des yeux. C'est passionnant, ce sera tout à l'heure vers 21h15. Merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, c'est parti.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Évidemment, Tech & Co, le débrief de l'actu tech, pendant que je m'assois et que personne ne le voit, enfin oui, peut-être un peu quand même, sauf à la radio. Julien Villeret est avec nous, salut Julien.
Bonsoir.
Merci d'être là, directeur de l'innovation chez EDF, bien sûr. Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business.
Bonsoir à
voilà,
tous et tous.
Fidèle camarade tous les soirs. Et nous avions un nouveau débriefeur hier, nous avons encore un nouveau débriefeur. On est en pleine phase de recrutement.
Oui.
Là, c'est incroyable.
C'est le mercato.
C'est le mercato des débriefeurs, dis donc. Et c'est Gaël Duval qu'on accueille pour la première fois. Donc,
bonsoir,
sur le plateau
François.
De Tech & Co. Gaël, ravi de t'accueillir.
Merci.
Entrepreneur, business angel et fondateur de jechange.fr. Raconte-nous un petit peu, présente toi, à toute l'audience.
Moi, je suis entrepreneur dans le digital depuis un moment déjà, puisque ça fait depuis 95, et j'en suis à ma quatrième société. La dernière ayant été Jechange, qui était dans le secteur de l'énergie, puisqu'on aidait les gens à changer d'opérateur de télécom, société que j'ai cédée il y a un an maintenant. Et aujourd'hui, je suis très impliqué dans l'IA en particulier, et sur particulièrement le développement d'un écosystème avec des levées de fonds qu'on va annoncer sur des sociétés. Et je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Voilà.
Eh bien voilà, on va pouvoir profiter de ton expertise dans la tech, dans ce débrief. Avec comme sujet ce soir, donc je le disais, Apple qui s'est empêtré dans une histoire incroyable, qui a été mise en lumière par Bloomberg, je crois. Voilà, Apple recyclerait des téléphones, ça on le sait, bien évidemment, mais il y aurait aussi, une phase un petit peu plus sombre, où des téléphones seraient tout simplement broyés, alors qu'ils seraient encore opérationnels. Et franchement, ça c'est incompréhensible de la part d'une boîte qui, depuis des années, ne cesse de répéter qu'elle est irréprochable en matière d'environnement. C'est pas tout à fait le cas. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi d'Apple avec, ces recrutements un peu fantômes, puisqu'Apple sera en train d'embaucher des anciens de Google pour travailler sur l'IA. Ça veut dire que finalement, ils sont en train quand même de bosser là-dessus. Et espérons que durant la WWDC du 10 juin prochain, on ait quelques informations IA à se mettre sous la dent. On parlera aussi d'intelligence artificielle, bien évidemment, avec Vaidu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce système qui génère des vidéos un peu comme Sora, mais c'est chinois, il paraît que c'est impressionnant. Anthony Morel nous en a parlé dans Good Morning Business. On reviendra sur cette affaire. Et puis voilà, plein d'autres sujets passionnant, bien sûr, le boom des véhicules électriques chinois. C'est un sujet que tu voulais mettre en avant, Julien. Tout ça d'ici 21h. Mais pour débuter, on va parler de reprendre le contrôle des écrans. C'est l'ambition, vous le savez, d'Emmanuel Macron. Le groupe d'experts mandaté par le président de la République a rendu ses conclusions aujourd'hui, donc forcément il fallait qu'on en parle. Il préconise d'acter des recommandations précises en fonction des âges. Les explications tout de suite de François Célière, qui est journaliste à BFM TV. Et puis bien sûr, on vient commenter tout ça juste après.
Le rapport préconise tout d'abord d'acter des recommandations précises en fonction des âges. En dessous de 3 ans, pas d'écran. De 3 à 6 ans, un usage déconseillé ou limité. Et à partir de 6 ans, une exposition modérée. De même pour le téléphone portable, pas d'achat en dessous de l'âge de 11 ans. À partir de 11 ans, un accès au téléphone sans internet. Puis internet sans les réseaux sociaux à partir de 13 ans. Et accès à 15 ans à des réseaux sociaux, je cite, éthique. La deuxième mesure est de mettre un terme aux éléments, je cite, « délétères des réseaux sociaux ». Le rapport cible le fil de déroulement infini des contenus et le lancement automatique et sans fin des vidéos et des notifications. Troisième mesure, le contrôle parental ne serait plus laissé à la guise de chaque plateforme ou opérateur. Le rapport préconise une seule interface de contrôle parental. Quatrième mesure, la création de zones zéro connexion dans les entreprises, les bars-restaurants et l'espace public. Mais le rapport propose aussi des mesures plus surprenantes, comme une réorganisation des horaires dans l'éducation nationale. Il recommande de repousser par exemple à 10 heures l'horaire du début des cours au collège et au lycée. Sur les jeux vidéo, ce rapport préconise l'interdiction de la vente en fonction des âges, comme c'est le cas actuellement au Royaume-Uni. Enfin, sur la pornographie, le rapport mise sur un projet de loi européen, le Digital Service Act, qui doit sécuriser l'accès au contenu.
Alors, beaucoup de choses dans ce rapport. On ne va pas tout commenter parce qu'il nous faudrait, je pense, 2 ou 3 Tech & Co. Peut-être revenir sur les mesures phares qui sont les plus... les plus spectaculaires, hein, c'est le fait que, on donne un accès progressif aux jeunes, pour répéter, donc moins de 3 ans, pas d'écran, interdiction, moins de 3 ans. Bon, ça me paraît normal, logique, hein, on va dire. De 3 à 6, usage des écrans déconseillés ou fortement limités, occasionnels, avec des contenus éducatifs. On peut imaginer un iPad avec des contenus éducatifs, des choses comme ça. De 3 à 6, après 6 ans, appelé à une exposition modérée, contrôlée. Avant 11 ans, pas de téléphone. Mais pas du tout. Même un téléphone, un vieux Nokia 3210. Voilà. Pas de téléphone. À partir de 11 ans, un téléphone, mais sans connexion Internet. Donc là, c'est le 3210. c'est ça, hein, finalement. À partir de 13 ans, un téléphone connecté sans accès aux réseaux sociaux. Donc bonjour les parents, parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils bloquent les installations des applis, etc., etc. Et à 13 ans, on commence à être un peu malin, hein, quand même. Hein. Quand on veut quelque chose, en général, on arrive à l'avoir. Et à partir de 15 ans, téléphone connecté aux seuls réseaux sociaux éthiques. C'est quoi les réseaux sociaux éthiques, Fred ?
Les réseaux sociaux éthiques, c'est des réseaux qui n'entraînent pas de réengagement un peu éternel, un peu comme nos réseaux. Là, on n'arrête pas de zapper, enfin de passer.
Donc TikTok n'est pas un réseau social éthique ?
Non.
Instagram non
c'est,
plus.
C'est des réseaux qui n'ont pas de contenu traumatisant, évidemment, des contenus offensants. C'est des réseaux aussi qui ne font pas d'atteinte à la vie privée, à la confidentialité des données. C'est des réseaux aussi où on est.
C'est Minitel, quoi.
Où on peut être un peu plus certain de l'âge des internautes.
Enfin, voilà.
C'est tout ce qu'on peut imaginer comme éthique autour d'un contenu et d'un usage, donc voilà à quoi ça ressemble. J'en connais pas beaucoup.
On pourrait même pas en citer un.
Ouais, non.
Tout ce qui vend de la data ne fonctionne pas comme éthique. Donc le réseau social étant un produit d'addiction, ça peut pas marcher en tant que tel.
Oui, parce que même les choses éducatives, c'est pour t'amener vers autre chose. Si on te propose la bibliothèque rose, c'est pour aller que tu dises la verte plus tard et puis que tu changes. Enfin, voilà, c'est toujours un truc pour t'entraîner vers un nouveau palier.
Alors, ce rapport est intéressant. Je pense qu'il était nécessaire. Est-ce qu'il va trop loin ? Est-ce qu'il va pas assez loin ? Est-ce que c'est plutôt des bonnes idées qui ont été présentées ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de donner des repères aux parents. Et d'abord, c'est pas nouveau. Enfin, moi, mon fils est né à 15 ans. Déjà, il y a 15 ans, on m'expliquait que pas d'écran avant 3 ans. Faites attention. Quand je travaillais dans les télécoms, il y a maintenant 20 ans, on disait le pauvre portable, c'est au collège. Donc, 11 ans. Donc je veux dire, ces recommandations-là, qui sont de bon sens et qui a priori s'appuient en plus sur des faits scientifiques avérés, me paraissent complètement raisonnables, mais c'est pas d'une grande nouveauté. Mais en tout cas, donner des repères aux parents, je trouve ça très très bien. Après, là j'avoue que mon sentiment et l'énumération que tu viens de faire est quand même assez frappante. On rentre toujours dans cette espèce de suradministration des choses. Tout d'un coup, alors il n'y a pas d'internet avant 11 ans, mais il y a du réseau social éthique à partir de 15 ans, mais en fait il y a le contrôle parental à... Franchement, qui va s'en sortir avec ça? Ça, c'est absolument impossible. Donc, je pense que c'est très intéressant de donner des repères et de dire aux parents, y compris ceux qui ne maîtrisent pas ces outils-là, vraiment, oui. Ne faites pas ces bêtises, ces grosses bêtises de donner des tablettes trop tôt.
C'est un peu le mode d'emploi de la connexion pour les enfants.
Tu vois, le 3 ans, 11 ans, 15 ans, au moins là, tu sais, tu vas
voilà,
3 ans, assez, rien, celui-là est 11 assez ans, modéré, et 15 ans...
Là, mais ce qui est important, effectivement, c'est de donner un des repères aux parents, deux, d'essayer d'éviter quand même que l'addiction tombe entre les mains des enfants très tôt. Après, bonne chance pour le mettre en œuvre dans une famille... avec plusieurs enfants, où vous allez vous retrouver sur le canapé avec un enfant de 3 ans, de 5 ans et de 11 ans, ouais. Sur lequel les parents vont pouvoir se dire il faut... mais comment je fais pour en avoir 3, je vis cet enfer-là tous les jours.
Non, mais c'est clair.
Ce qui est quand même
il faut
très
en mettre
bien
dans la cuisine.
C'est ça, on en met un dans la chambre,
toilettes,
dans le
un
salon,
dans la salle de bain, et comme ça, ils peuvent pas communiquer
pour le mettre en œuvre. Mais au-delà de la blague, ce qui est vrai, c'est que, bon, déjà, comme le dit Julien, on le sait depuis longtemps, même Steve Jobs, en tant que premier vendeur de drogue, refusait les iPads sont entre les mains de ses enfants. Donc lui-même savait le risque d'addiction, ce qu'il y a. Ce qui est quand même super important. Et c'était il y a 15 ans. Et ce qui est super important néanmoins, c'est pas l'écran en fait le sujet. C'est ce qu'il y a dans l'écran. C'est les réseaux sociaux. C'est les problèmes de maîtrise de temps passé. C'est les problèmes de concentration. Et je pense que ce qui est important dans le rapport, c'est que ça donne quand même des repères d'âge. On essaye de donner des paliers en disant il faut pas qu'à certains paliers vous puissiez laisser la main. Moi, ce que je vois, je vois des enfants de 5 ans, 6 ans déjà sur TikTok. Enfin, c'est un enfer. Et qui sont totalement abrutis par le pouce qui monte et qui descend à regarder des choses totalement absurdes. Donc le rapport, il est important pour ça. Après.
Sans parler de l'impact que ça a sur le cerveau quand on est un jeune enfant.
C'est sur la concentration. Et même le rapport le dit d'ailleurs. Même le rapport se reconnaît comme effrayé par l'impact que ça a. Donc je pense qu'en termes de mettre des métriques, c'est super important sur des contrôles. Après, le vrai sujet, c'est de responsabiliser les parents et de responsabiliser les parents sur le fait de ne pas laisser entre les mains des enfants trop longtemps des objets qui sont extrêmement néfastes pour leur développement personnel et pour d'accès à des informations qui sont pas. Et après, il y a un sujet sur la pornographie qui est effectivement encore plus grave, puisque les études sont dramatiques sur l'âge d'accès à la pornographie, où là, enfin, moi, j'avais préconisé il y a très longtemps, à l'époque où j'étais dans le Conseil National Numérique, d'essayer de faire en sorte que ce soit les opérateurs qui, sur les abonnements des mineurs, coupent complètement l'accès à ce genre de choses. Il s'avère que la loi européenne ne le permet pas et ne l'autorise pas, d'où le fait d'en faire une et d'en développer une. Mais c'est aussi là l'un des enjeux majeurs de ce rapport sur ce sujet. Là qui est catastrophique.
Alors il y aurait on va dire un renforcement de toutes ces informations dès l'école élémentaire, mais bon, ça me paraît tellement évident.
C'est exactement.
Ça paraît tellement évident que, je sais pas moi, une heure par mois, on explique en fait aux enfants que, il faut utiliser les écrans le moins possible ou à des moments bien spécifiques de la journée, les impacts que ça peut avoir après sur la société, etc. etc.
En tout cas, c'est plutôt, je trouve, donc une bonne nouvelle, mais voilà, attention de ne pas tomber dans la suradministration et commencer à expliquer aux gens à partir de quelle heure, de quel jour et de quel mois ils doivent mettre tel contrôle parental, etc. Parce que il faut aussi responsabiliser effectivement un peu les gens, mais en tout cas donner des repères, ça paraît de santé publique.
Mais donner des repères aux parents, ne serait-ce que dans les histoires de contrôle parental, d'heures d'usage, de dire voilà de 7h30 à 17h30, voilà, il a accès à des contenus. Après, ça bloque ce genre de choses. Parce qu'il faut pas oublier non plus que là-dessus, l'éducation bouge beaucoup. Hein, aujourd'hui, si on a des enfants ados, les devoirs, c'est faut aller voir YouTube, faut aller...
C'est pire que ça, faut aller sur École Directe pour leur direct, laisser l'accès à savoir ce qu'ils vont faire pour les devoirs.
Le texte.
Donc il y a un sujet qui est aussi de... il faut que l'école soit évidemment extrêmement tech-friendly et ouvert à l'accès à l'information et à l'écran, mais il faut aussi permettre de faire en sorte qu'on se retrouve pas à être obligé de donner des écrans aux enfants pour qu'ils aillent faire leurs devoirs à un moment donné. Donc c'est...
Puis moi je pense que ça peut même être lié à des inégalités, parce que tu as ceux qui vont faire évidemment très attention à ça et qui vont trouver des alternatives éducatives de qualité parce que c'est un certain milieu, parce que etc. Et puis d'autres qui vont on va leur supprimer, puis voilà, ils n'ont pas accès à une certaine culture. Alors effectivement, pas accès au porno, ça c'est clair, mais ils n'auront pas accès à d'autres choses. Et là, ça peut créer aussi des inégalités. Donc, je pense qu'il faut voir ça comme des repères. Tout ce que l'on peut mettre en place déjà, c'est ce que je le disais hier, mais de base, quand tu parlais de pornographie, ben voilà, si on pouvait déjà mettre le contrôle d'identité, après on dit ça marche pas terrible. Oui, mais si on a déjà ça et qu'on limite 60% des gens, c'est déjà ça. Alors après, ils apprendront comment contourner, mais ce sera un peu plus compliqué. Enfin, voilà, c'est. Mais là, ça paraît contraignant. Puis rappelons-nous la Chine, hein, qui, alors elle, c'est. Et finalement, quelque part, ils étaient sur la bonne voie, parce que là, c'est très directif. Et puis là, je pense que si on commence à rentrer aussi dans l'ingérence des familles, les parents, ils votent. Hein, donc ça veut dire, tiens, c'est encore un truc de plus qu'on nous met.
Oui, ça serait une décision impopulaire, ça, c'est clair.
Qu'on nous impose.
Mais c'est vrai qu'on se moquait de la décision de la Chine il y a quelques années de limiter le temps d'écran, etc. Finalement, on se rend compte qu'évidemment, c'est une décision autoritaire et sans appel. Ligne, ouais. Mais on peut comprendre, enfin, je pense qu'ils avaient compris l'impact que ça avait sur la jeunesse chinoise.
Ça répondait à une épidémie là-bas, qui était le jeu en ligne multijoueur, massivement multijoueur, avec des enfants qui jouaient toute la nuit.
Qui paralysait toute l'enfance. Ouais. C'est fou. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si ce n'est pas toi qui m'avais raconté cette histoire. Tous les chercheurs, les développeurs qui sont dans la Silicon Valley, qui ont des enfants, ne leur donnent pas accès aux outils numériques.
Steve Jobs refusait que ses enfants.
Alors, il y a Steve, mais aujourd'hui.
Ou alors, ils leur donnent accès, mais de façon très contrôlée.
Mais bien sûr.
Ils sont vraiment.
C'est pour dire qu'ils sont même en avance sur ce. Ils sont, un, conscients des dangers de ce qu'ils fabriquent. Et deux, ils sont en avance par rapport à nous qui sont peut-être un peu plus
coulants. Mais je trouve que là encore, on culpabilise l'utilisateur et on va rien faire pour auprès des constructeurs, tout le monde à mort. Alors, c'est compliqué aussi, mais ce serait peut-être aussi là où il faudrait un peu revoir le modèle.
Aujourd'hui, le contrôle parental, encore une fois, en tant que parent de jeunes adolescents, je le vis tous les jours, il est extrêmement bien fait. Aujourd'hui, je peux décider que mon fils, il a que 30 minutes d'Instagram par jour, basta. Par contre, il a accès non-stop à sa messagerie pour pouvoir travailler.
Sur ton smartphone, tu paramètres tout ça
Bien sûr, moi j'ai paramétré sur les smartphones de mon fils en l'occurrence. Il n'y a que lui qui en a un. Ma fille n'en a pas à 12 ans, elle n'en a pas encore. Mon fils en a un à 15 ans.
Ça commence à tirer un peu, non ?
J'ai un peu.
La maison ?
J'ai paramétré tout ça et du coup, il sait qu'il a tant d'heures de temps d'écran ou tant de minutes de temps d'écran par jour. Seulement certaines applis. École directe, c'est illimité. Par contre, voilà. Honnêtement, c'est un peu compliqué, il faut s'y pencher. Mais enfin, ça existe ces outils-là. On peut expliquer aux gens.
Le meilleur contrôle de temps d'écran, c'est de prendre l'appareil. Parce que ce qui est vrai, c'est que sur YouTube, ils ont tous les infos pour savoir comment enlever les contrôles parentaux et comment essayer de détourner le sujet. Donc, il y a un moment donné, il faut juste enlever l'appareil, enlever l'écran. Mais là où c'est bien sur ce rapport, c'est une volonté d'essayer de responsabiliser les parents. Ouais. Le sujet qui est effrayant, c'est qu'il y a des gens comme nous qui ont conscience de ça.
Oui,
mais quand vous vous retrouvez en collectivité, en vacances, avec plusieurs personnes, avec d'autres enfants, au collège. Moi, à 8 ans, il y avait un copain de mon fils qui avait un iPhone dans son école. C'était pourtant interdit d'amener un téléphone, interdit d'avoir un iPhone, etc. Et le gamin, il était à cour de récré en train de regarder YouPorn. Donc, c'est effrayant. C'était une situation.
Et puis il devait frimer auprès de ses copains.
Exactement. Donc le problème est qu'aujourd'hui, c'est purement et simplement de supprimer l'appareil, ce qui sera plus simple.
Oui, je termine là-dessus. Et puis c'est vrai que longtemps, on a dit oui, il faut que si vos enfants sont devant des écrans, c'est pas si grave que ça, il faut faire attention, puis ça va les mettre en lien avec cette éducation au numérique. Mais y a la différence entre faire des jeux vidéo et faire du codage. Et souvent, on mettait un peu ça, dire mon fils, il est super bon sur les écrans, verriez. Il était sur. Enfin,
mais surtout que la réalité, c'est qu'il regarde Vidéogag en réalité.
Bah voilà,
il passe son temps à regarder.
Et puis, excusez-moi, scroller sur TikTok, il ne faut pas faire preuve d'une immense intelligence et.
Oui, pendant longtemps, on a fait ça.
Si je peux juste balancer un tout petit peu ce propos-là. Il y a aujourd'hui beaucoup d'applis, en particulier pour les 6-10 ans sur tablette, qui sont des applis éducatives formidables.
Ah oui, bien sûr.
Et qui permettent de s'adapter, par exemple, au niveau des enfants. Des enfants qui ont des difficultés de lecture, par exemple, en CP, aujourd'hui, grâce à des applis qui reposent sur de l'IA, vont pouvoir s'entraîner avec une appli qui est très adaptée pour eux. Et ça, c'est évidemment pédagogiquement très intéressant. Donc,
non, mais même du oligo pour les enfants.
Duoligo, par exemple.
Ça marche super bien. Ça marche
même balancer un peu le propos là-dessus.
C'est vrai. Quoi.
C'est clair. On enchaîne avec un autre sujet. Cette fois-ci, nous allons du côté de Cupertino et du côté d'Apple. Avec cette longue enquête qui a été publiée par Bloomberg, une enquête qui fait tache d'encre, parce qu'elle est quand même assez forte. Et elle explique, en fait, comment sont recyclés ou détruit les iPhones. Une certaine partie, bien sûr. Vous savez qu'un iPhone, bon, a 2, 3, 4, 5, 6 ans de durée de vie. Et puis, la plupart du temps, il part en reconditionné. C'est-à-dire qu'il est, on va dire, on va le remettre un petit peu au goût du jour. On va changer la batterie, regarder si tous les composants fonctionnent. Et puis, il repart pour une seconde vie. Ça, c'est, on va dire, le scénario normal. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'iPhones qui, au lieu de partir en recyclage ou en reconditionné, partent à la casse, en fait. C'est-à-dire qu'ils partent dans des containers et il y a des usines qui débroient, en fait, ces téléphones. Et Bloomberg a mis, en fait, en lumière le fait que des milliers de téléphones qui pourtant pourraient partir en reconditionné ou en seconde main sont broyés, en fait, par ordre d'Apple. Et d'ailleurs, il y a eu une histoire incroyable, c'est que les employés de ces sociétés qui sont là, qui ne font que broyer des téléphones, recevaient des palettes entières de téléphones qui étaient fonctionnelles et les volaient, en fait, pour éviter qu'ils soient broyés, pour après les revendre, en fait. Et Apple a crié au scandale, etc. Donc, tout ça, ça va un peu à l'encontre de l'image que Apple essaie de se donner. Enfin, je ne sais pas, à chaque fois qu'on a une conférence d'Apple, on a au moins un quart d'heure sur la sustainability, le RSE, l'environnement, c'est quoi l'équilibre carbone d'ici
Le bilan carbone,
neutralité carbone d'ici quelques années.
Et ils font des choses qui sont très en avance sur le reste de l'industrie. Il faut pas.
Mais là, ils se font avoir la main dans le pot de confiture, quoi.
Oui, alors moi je pense vraiment qu'il y a plusieurs choses derrière toute cette histoire. D'abord, il y a le fait que effectivement Apple ne maîtrise probablement pas aussi bien cette chaîne que d'autres, parce que c'est pas eux en fait qui recyclent les téléphones, ils le donnent à des prestataires qui le font pour eux. Mais les prestataires ne font que évidemment suivre les instructions d'Apple, donc je ne les dédouane absolument pas. Simplement, ils donnent effectivement ces téléphones et il est probable, je parle au conditionnel puisque toute cette information là n'est pas totalement vérifiée, mais qu'ils leur donnent des instructions pour que s'il y a le moindre défaut sur le téléphone, il faut le détruire. Pourquoi ? Parce que ça abîme l'image de marque d'Apple de remettre sur le marché des téléphones moins fonctionnels ou dont les mises à jour d'OS les rendent trop lents, ou etc. Alors qu'effectivement, ils pourraient être complètement utilisés.
Puis le moindre défaut, c'est un peu flou, tu vois.
Et c'est sûrement.
C'est une grosse rayure sur l'arrière du téléphone, c'est pas pour autant que il peut vivre encore quelques années, ce téléphone-là.
Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, cette polémique, ou en tout cas cette info qui est sortie, parce que je pense que ça met Apple face à ses responsabilités. Et qu'effectivement, il y a l'écologie qu'on maîtrise. Je mets de l'aluminium recyclé dans mes produits, je m'assure que toute l'énergie utilisée est bas carbone, tout ce que Apple raconte à longueur de conférence, ça ils le maîtrisent. Par contre, ça va aussi les forcer à repenser l'économie circulaire. Et ça c'est quelque chose qui pour une marque premium, presque de luxe, hein, comme les Apple, est quelque chose qui n'a pas aujourd'hui été théorisé. Effectivement, d'ailleurs, je ne sais pas si vous utilisez les produits Apple, parfois ils sortent des produits, ça a été le cas avec leur case pour leur dernier téléphone, hein, avec un nouveau matériau censé être écologique. Je ne sais pas si vous avez vu la polémique dessus, mais globalement, au bout de 3 mois, ça ressemble à une serpillière. Et donc, en fait, ils vendent 60€ un produit qui est inutilisable au bout de 3 mois, ce qui n'est pas très bon non plus pour la sustainability. Donc je pense qu'ils sont pas encore, ils n'ont pas encore fait ce pas-là, et qu'il va falloir probablement qu'ils le fassent. Ce genre de polémique va probablement les pousser à le faire, mais il ne faut quand même pas discounter que parmi tous les grands de la technologie et des gens qui fabriquent du hardware, c'est Apple qui aujourd'hui est le plus avancé dans son programme de sustainability.
Ils avaient même créé des robots, hein, spéciaux.
Ils ont créé des robots, effectivement,
Daisy, etc.
Daisy, pour les assembler des téléphones, mais qui sont largement... Il y en a très très peu, en fait, en fonction.
Mais voilà,
ça ne suffit pas du tout.
On a l'impression que c'est plus un coup de com' qui fait plaisir aux journalistes qui font de beaux reportages que véritablement une vraie alternative.
Mais comme toujours chez Apple, il y a une opposition entre un message porteur de valeur, porteur de sens et une réalité. Ça a été vrai sur la data où aujourd'hui on sait que les téléphones nous écoutent et sont reconnectés à la publicité pour nous faire de la publicité géolocalisée. Soi-disant c'était pas vrai, ils se sont fait attraper la main dans le pot de confiture. C'est vrai aujourd'hui sur le recyclage, etc. Ce qui est surtout triste, c'est qu'il y a des enjeux d'inclusion digitale numérique dans le monde entier et qu'aujourd'hui Apple pourrait, de par sa puissance et son image de marque, travailler sur ça et essayer de faire en sorte que ça soit recyclé pour des gens qui sont incapables de s'acheter un téléphone, quoi qu'il en ait. Et le deuxième problème, c'est que ce qui est quand même profondément dommage, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est démontré sur exactement le suivi du process par Apple et la capacité d'Apple de connaître réellement l'état de leur téléphone quand ils sont jetés. Maintenant, quand on fait une comparaison, tu parlais d'image de marque de luxe, c'est une marque de luxe. Le monde du luxe dans le monde des vêtements, dans le monde fait la même chose. Il y a des vêtements qui sont jetés, brûlés, plutôt que revendus, remis sur du secondaire, parce que pour l'image de marque, c'est plus important de créer de la rareté, créer de l'envie, que de balancer des millions de pièces partout qui vont être achetées en occasion, qui vont être mis à droite et à gauche, etc.
Bon, après, il y a Vinted, il y a plein de sites comme ça qui sont là justement.
Pour... Oui, mais Vinted, c'est des gens qui l'ont acheté.
Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai.
Moi, je parle de gens, de stock de marques de luxe.
Des stockages, quoi, en quelque sorte.
Ne pas remettre sur le marché et déstocker un produit.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette enquête, Bloomberg a interviewé un ingénieur qui a travaillé dans ces usines de recyclage et qui dit ceci. Apple ne peut pas vendre un tout nouveau téléphone à 1 000 $ s'il y a encore sur le marché des téléphones vieux de 2 ans. Plus ils se débarrassent de téléphones, plus ils peuvent en vendre. C'est autre chose, là. Oui. Là, ça serait presque sciemment qu'Apple détruirait des téléphones pour un petit peu donner d'oxygène aux ventes potentielles de nouveaux modèles.
Ça, pour le coup, je ne crois pas une seule seconde.
Mais... Moi, je pense que c'est plus un...
Alors, moi non plus, j'y crois pas, mais je voulais vous lire cette phrase parce que c'est un autre argument.
Il y a un peu un ressenti contre Apple et qui les accuse de tout ça. Moi, je trouve que là ce qui est dérangeant, c'est effectivement, il y a tout le Apple qui dit tout ça, mais c'est que quand tu dis qu'Apple est l'un des premiers à travailler à stimuler un peu cette économie circulaire, si on apprend que lui, sur une grande partie, ne le fait pas. Enfin, il y a un côté engageant, quoi, entraînant. Il y a ça. Je pense qu'il va y avoir un souci aussi. Là, c'est la suite. Alors, il faut voir, est-ce que c'est des matériaux qui viennent de chez des brokers, qui viennent directement de chez Apple? Est-ce qu'Apple était vraiment au courant un petit peu quand même? Mais dans les entreprises aujourd'hui, dans les cahiers des charges, dès qu'on achète un PC, dès qu'on achète un matériel, enfin, même une prestation de service, on demande tout un lot là, enfin, tout l'amont. On veut en savoir plus et comment ça va être recyclé derrière. Donc, ça peut être passé à côté d'opportunités d'achat. Donc, je pense qu'ils vont réagir assez vite par rapport à ça.
Et ils sont probablement en communication de crise sur ce sujet.
Oui, bien sûr.
Apple, la réputation chez Apple, c'est un sujet.
Et c'est étonnant qu'ils n'aient pas réagi d'ailleurs.
Ils mettent toujours du temps à réagir.
Peut-être qu'on risque d'avoir un communiqué de presse.
Il y a les conformités réglementaires aussi. Enfin, tu dois avoir des choses. S'ils ne répondent pas, ils peuvent se prendre des amendes aussi, j'imagine.
Alors, juste pour terminer ce sujet, pour conclure ce sujet, Bloomberg dit très clairement qu'il n'y a pas qu'Apple qui détruit comme ça des objets. Il y a Bose. Enfin, il y en a d'autres.
Je crois qu'il n'y a pas que des.
Plat, il y a même des sextoys qu'on détruit comme ça.
Et même chez Apple, il n'y a pas que des smartphones, il paraît qu'il y aurait des Mac aussi.
Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Il nous reste 1 minute 40. Autre petite actu Apple qu'on va commenter brièvement, c'est le fait que Apple est en train de préparer sa stratégie IA en embauchant à tour de bras, quand même, d'anciens ingénieurs de chez Google pour préparer l'IA de demain chez Apple. Et il y aurait même un laboratoire secret à Zurich.
Oui.
Qui veut commenter ça?
Sur l'IA, ils sont très actifs. Ils viennent de racheter en France une très belle boîte qui s'appelle Datacalab et qui est un capacité de développement assez fort sur des sujets de compression et d'optimisation de l'IA. On a d'ailleurs énormément de super boîtes en France. Une autre qui s'appelle Pruna qui fait ça et qui est une des super boîtes françaises de l'IA. Le sujet, c'est ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en retard, ou en tout cas, ils communiquent de façon tardive sur le sujet, et qu'il y a un enjeu pour Apple d'essayer de rattraper ne serait-ce qu'en communication, le train de Apple présent sur l'IA, fort dans l'IA, investissant dans l'IA, parce que comme toujours c'est une boîte qui est très secrète avec une approche de communication très faible sur réellement ce qu'ils font. Et là aujourd'hui on voit bien que en termes de valorisation boursière, en termes de communication sur le titre, il est important que Apple puisse réellement dire un peu ce qui va se passer et ce qu'ils font, parce qu'on ne les entend peu par rapport à des Google, par rapport à
c'est ça qui est bizarre, parce que c'est quand même on estime, je regardais un rapport là d'un cabinet de recrutement, d'un cabinet d'analyse qui dit qu'en gros Apple aurait racheté depuis 2017 21 startups dans le domaine. Là où Microsoft, la moitié, 12,
Alphabet, le patron de l'IA d'Apple, il vient de Google il y a 5 ans. Enfin, je veux dire,
oui, mais justement, on le voit jamais.
Depuis des années.
Mais on le voit jamais.
Mais c'est normal, c'est le modèle Apple. Ils ont toujours fonctionné comme ça.
Mais tu vois, il ne sort pas dans les conférences, on ne parle pas de lui. On sait que chez Apple, en plus, moi, ce que j'ai entendu chez Apple aussi, c'est que justement, il y a un problème de leadership. Alors sans doute c'était John Andrea, c'est un super chercheur, mais à mon avis il y avait une bataille entre le deep learning, enfin
sur moi je crois que il y a un truc qu'il faut vraiment voir, c'est que sur Apple je pense n'est pas du tout en retard sur l'IA, très clairement, ça j'en suis absolument persuadé,
peut-être générative.
Quand on voit toutes les publications qu'ils ont fait sur le génératif depuis deux ans.
Oui, mais aujourd'hui, il y a un usage.
Non, mais là, je parle sur ce qui se passe dans leur labo de recherche.
Ah oui, oui.
C'est des données publiques, hein, ils publient, donc on les voit, etc.
Mais sur l'IA, pas sur les génératifs.
Sur l'IA génératif y compris. Moi, je pense vraiment qu'ils ne sont pas du tout en retard. Pourquoi ils ont attendu avant d'externaliser comme ils l'ont fait sur toute leur technologie, toute leur vie? C'est parce que leur modèle était de dire, moi, je veux du on-device. C'est-à-dire que je veux pouvoir faire de l'IA générative sur le téléphone.
Sans être connecté au réseau.
Sans être connecté au réseau. Et ça veut dire quoi? Pour des questions de privacy, etc., qui font partie de leur discours marketing. Et donc ça veut dire qu'il faut du hardware qui soit prêt, qui soit assez puissant, des modèles LLM qui sont petits, légers, qui peuvent fonctionner sur des petits devices. Et je pense qu'il leur a fallu plus de temps que, enfin, en gros, s'ils avaient voulu prendre une API OpenAI et la mettre dans l'iPhone, ils l'auraient déjà fait il y a un an. Enfin, je veux dire, c'est pas des problèmes d'argent pour Apple. Donc moi, je pense vraiment qu'ils ont cherché un modèle d'IA on-device qu'ils ont probablement développé. Là, ils sont effectivement communication très en retard, mais pour moi, c'est le modèle Apple.
En 2023, c'était l'année des gros développements IA, des gros investissements LLM. Ce qui est sûr, c'est que là, on rentre sur l'applicatif et le plus petit. Et c'est là où, sans doute, Apple va rattraper son retard en termes de communication, parce que l'objectif maintenant de l'IA, c'est de le rendre exploitable et utilisable par tout le monde dans son téléphone, dans son quotidien. Et d'où l'importance de l'optimisation, de la numérisation de cette IA et d'un rachat comme Data Calab qui est parmi les 20, mais qui est vraiment importante pour eux, quoi.
Gaël, Julien et Frédéric, on revient dans un instant, 20h30, on va être un peu en retard pour l'Info Écho et on revient juste après pour continuer ce débrief. On va notamment parler du marché de l'automobile électrique en Chine qui est en train d'exploser avec des concurrents qui risquent d'arriver ici, même en Europe. À tout de suite.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Étienne Brack est avec nous. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
Journaliste à BFM Business, bien sûr que vous connaissez bien. Alors Étienne, journée riche d'enseignements concernant le secteur auto avec Stellantis, Mercedes et Volkswagen. Et le constat est le même chez les trois industriels. Eh bien ça ralentit, l'activité ralentit.
Ouais. Alors c'était anticipé, mais là ça ralentit d'une façon plus importante que prévu. Il suffit de voir Stellantis en bourse qui chute de 10% ce soir à la clôture. C'est la maison mère de Peugeot, de Citroën, de Fiat, de Jeep. Enfin bon, ils ont une vingtaine de marques, hein, donc c'est un bon baromètre. Ça ralentit aux États-Unis, mais aussi en Europe, hein, avec notamment des volumes qui sont en baisse de 10% au premier trimestre. Les voitures électriques, un petit plus 8%, après plus 22% l'année dernière. Alors, ils tentent de rassurer en disant, vous inquiétez pas, on va lancer 25 véhicules cette année, dont 18 voitures électriques. Mais bon, n'empêche, ça ralentit. Volkswagen baisse des volumes, moins 2% au premier trimestre, moins 3% pour les voitures électriques. Mercedes, là, vous avez une baisse de 6%. On monte dans le haut de gamme. Hein. La semaine dernière, il y avait Porsche aussi. Là, vous avez des fortes baisses également en termes de chiffre d'affaires et de volume, notamment dans le segment luxe, hein, Mercedes sur les voitures haut de gamme, moins 27% de véhicules vendus, moins 8% pour l'électrique. Alors certes, on passe d'une période très faste avec une période aujourd'hui de normalisation, mais vous avez quand même aujourd'hui un point de vue qui est que ceux qui voulaient acheter des voitures électriques l'ont fait, et puis ceux qui n'en veulent pas n'en veulent toujours pas, et vous avez également des hausses de prix assez impressionnantes qui ont été passées, hein. Quand vous regardez le prix des voitures électriques avant le Covid et aujourd'hui, vous avez des hausses de prix de 20 à 30%. Alors certes, c'est maquillé par des nouveautés, par de nouvelles fonctionnalités, une autonomie plus importante, mais vous avez quand même des véhicules onéreux, sachant que dans le même temps, l'Asie qui était l'Eldorado commence à caler. Mercedes, l'Asie, c'était son premier marché avec notamment la Chine. Et là, ce matin, ils ont été très prudents par rapport à l'Asie, avec une concurrence qui est féroce, avec des constructeurs chinois qui montent en gamme, qui savent aujourd'hui faire du luxe pour moins cher que Mercedes. Et Mercedes l'a encore dit dans sa conf-call, on ne veut pas baisser les prix. Bah oui, mais sauf qu'il y a un an, la marge opérationnelle, c'était 15%. Aujourd'hui, elle baisse à 9%. Et enfin, cerise sur le gâteau, Tesla. Ça fait quelques heures qu'on n'a pas parlé de Tesla, François. Des informations de presse aux États-Unis qui évoquent qu'ils vont licencier au moins 500 personnes, qui vont fermer deux services. Et par rapport à cela, ça montre bien la logique de réduction des coûts qui est là chez tous les constructeurs, avec une concurrence chinoise qui est de plus en plus féroce. Et on l'a encore vu le mois dernier en Chine, où les ventes de Tesla étaient stables.
durable.
Merci beaucoup pour cette analyse. C'était Étienne Brack. Pour débriefer l'actu, je vous le rappelle, Frédéric Simotel. Nous avons aussi avec nous Gaël Duval, entrepreneur, business angel et fondateur de jechange.fr, et Julien Villeret, directeur de l'innovation chez EDF. Alors évidemment, chez EDF, on parle d'électricité, mais pas que, hein, de toutes les énergies, mais l'électricité est un sujet évidemment très important dans le monde de l'électrique. Comment analyses-tu justement ce que vient de nous dire Étienne, et puis cette montée en puissance de l'industrie automobile chinoise, qui aujourd'hui est très forte sur son marché chinois, mais qui est en train d'arriver en Europe.
Qui est en train d'arriver en Europe, et c'est très frappant. Trois illustrations qui m'ont beaucoup frappé ces derniers jours. Hein, ça date vraiment de ces derniers jours. BYD, qui maintenant est une marque un peu connue en France, qui est une des principales marques de voitures électriques en Chine, est en train de faire construire ses propres porte-containers. Donc vous voyez les énormes porte-containers
qui traversent les mers. Ouais.
Non, pas les containers, le bateau.
Ah oui.
Est en train de faire construire ses propres bateaux dont il va être propriétaire pour transporter ses voitures sur les autres continents. 6700 voitures par bateau. Pour chaque bateau. C'est le premier constructeur automobile de l'histoire à faire ça, à commander, parce que il prévoit d'exporter ses voitures, qui ont beaucoup de succès dans le monde entier, par bateau entier.
Et c'est plus intéressant pour eux financièrement que de louer un service.
Maîtriser, j'imagine, leur supply chain. On sait que le transport par bateau a connu quelques problèmes ces dernières années, par exemple. Xiaomi, qui est bien connu pour ses téléphones et pour plein d'autres appareils électroménagers, a lancé une voiture qui est absolument magnifique. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Elle est absolument sublime. Très haut de gamme, vraiment ça ressemble à une marque allemande très haut de gamme en termes de qualité, etc. Moins de 30 000 dollars. Il y a aujourd'hui 9 mois d'attente pour pouvoir la commander en Chine, tellement elle a de succès. Une étude est sortie hier, qui m'a beaucoup frappé, qui regarde les systèmes de conduite autonome qui sont aujourd'hui développés dans le monde. On parle beaucoup du FSD de Tesla, qui est bien connu.
L'autopilote.
De l'autopilote. Quelques outils de Level 1, Level 2 qui existent chez d'autres constructeurs. Aujourd'hui, il y a 10 systèmes en production, c'est-à-dire qui fonctionne, d'autopilote, équivalent ensuite Tesla, qui fonctionne sur les voitures électriques chinoises, qui sont aujourd'hui dans les rues. Et les rues, pour ceux qui sont déjà allés en Chine, les rues de la capitale chinoise ou des grandes villes chinoises, c'est quand même assez compliqué. Donc, ils ont aujourd'hui une avance absolument colossale à des prix totalement cassés. Et donc, on peut imaginer, si on le met en parallèle avec ce qu'on vient d'entendre, les voitures électriques coûtent de plus en plus cher, par exemple sur le marché européen, mais probablement sur l'ensemble des marchés mondiaux. Des technologies qui ne sont pas toujours aussi avancées que celles des Chinois, je pense qu'il faut se réveiller.
C'est très inquiétant dans le sens où les chiffres qui sont là sont ceux avant l'arrivée en vague de ce qui va nous tomber dessus avec l'arrivée des nouvelles marques chinoises qui sont en train de débarquer. Donc il est effectivement temps que l'industrie...
On parle de BYD et de Xiaomi, mais il y en a d'autres.
Il y en a une vingtaine, sans compter ceux qu'ils ont déjà rachetés en Europe, comme Volvo ou autres. Donc il y a un vrai sujet, je pense qu'il y a une erreur stratégique qui a été faite par l'Europe sur le sujet pour ouvrir aussi vite un marché... Un secteur qui n'était pas prêt à l'accueillir et à le développer. Maintenant, la vraie question, c'est comment on va avancer rapidement pour produire des batteries, pour devenir autonome. Encore une fois, je pense qu'il y a un protectionnisme qu'on ne veut pas assumer en Europe et qu'on ne veut pas assumer en France sur le sujet, alors que l'Amérique ne se gêne pas de le faire, que la Chine vient avec ses voitures et que nous, on a des constructeurs qui baissent.
Alors, juste, on a un peu de protectionnisme quand même, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le fameux bonus écologique électrique, c'est un peu une certaine forme de protectionnisme.
Bien sûr.
Parce qu'une voiture chinoise n'est pas éligible à ce bonus. Il faut que ce soit une voiture qui...
Ils ont changé la loi au dernier moment.
Exactement. Mais malgré tout, il y a eu un petit effort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour bénéficier de ce bonus de 4 ou 5 000 euros, je ne sais plus, et qui peut être même plus si vous répondez à des conditions de ressources, etc., etc. Et il faut que la voiture soit fabriquée en Europe. C'est le cas, par exemple, de la Tesla Model Y, qui bénéficie de ce module, de cette réduction, parce qu'elle est fabriquée à Berlin.
Mais il faut vraiment pas oublier ce qui s'est passé sur les panneaux photovoltaïques, par exemple, qui est une chose qu'on connaît bien, nous, dans le monde de l'énergie, c'est que les Chinois aujourd'hui à qualité égale sont deux fois moins chers. Donc c'est pas un bonus écologique de 5000 euros qui va changer l'économie de la voiture.
Mais tu veux dire par là qu'une voiture européenne moins le bonus écologique sera toujours plus chère qu'une voiture chinoise sans bonus.
Elle sera plus chère de 15000 euros, de 20000 euros.
Et elle sera plus chère en termes de coût, donc en termes de marge pour le constructeur.
Après, les autres solutions, c'est taxer ces véhicules chinois. Mais le problème, c'est qu'après, on aura des réprimandes. si la Chine commence à taxer notre vin ou nous voilà nos produits de luxe, etc. C'est, ça, ça mais le, une surenchère qui est néfaste.
Au-delà des taxes, c'est d'avoir une vision très long terme sur des industries qui sont extrêmement long terme. Quand on voit ce qui s'est passé avec Opium, qui a pas été soutenu à un moment donné, alors que c'est.
On ne parlait pas d'Opium. Franchement, voilà. Ce truc-là, c'est. Excusez-moi, mais. Enfin, on peut en parler d'Opium, mais avec Fred, on a quand même un avis assez tranché là-dessus. Ça a été quand même un truc incroyable.
Ah oui, c'était un truc incroyable.
Comment dirais-je ? J'ai pas envie de dire supercherie parce que j'ai pas envie d'aller aussi loin, mais quand même, enfin, personne ne croyait à Opium, quoi.
Non, mais au-delà de la croyance, c'était pas mon point. Le point aujourd'hui, c'est qu'Opium va être acheté par des Vietnamiens et des Chinois. Et qu'on a.
Qu'est-ce qu'on rachète d'Opium, quoi? Bah, peut-être quelques brevets sur un moteur à hydrogène.
Quelques brevets hydrogène sur un marché qui est celui de l'auto, des camions, qui va être un des gros marchés de l'hydrogène de demain.
C'est pour ça qu'ils auraient dû aller sur les camions.
Mais après, il y a eu des erreurs stratégiques sur Opium, c'est pas mon point. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un manque de vision.
Ça sentait pas bon dès le départ.
Il y a un manque de vision entre des Chinois qui ont une vision extrêmement longue avec des investissements extrêmement importants et du dumping de fabrication versus nous qui sommes sur le nez du cours de la bourse pour savoir si oui ou non ils vont gagner 9 ou 4%.
La grande différence, c'est que nous occidentaux on démarre sur les véhicules thermiques et qu'on est en train de passer à l'électrique, et les Chinois ils ont démarré sur le véhicule électrique et ils sont en train de passer à la partie intelligente. Déjà
c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait des véhicules thermiques,
mais ils n'avaient pas une industrie qui était aussi
développée. On leur a dit ou quoi,
les Chinois.
On a construit des
BYD et tout ça, ils n'ont pas un historique.
Oui,
toutes ces marques-là n'ont pas un historique comme nous, on se travaille, les Renault et Peugeot et tout ça. Deuxième chose, la réglementation. Très vite, et ça fait 2018 à Shenzhen, taxi électrique obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement. Tout une licence de taxi, c'est obligatoire, c'est électrique. Donc, bon, c'est la Chine, on impose un peu plus facilement. La logistique, elle est quand même beaucoup plus simple. Les fabricants de batteries, ils sont à deux pas. Donc, ça coûte encore moins cher de tous les CATL, même les LG Chem, là, bon, qui est coréen, mais qui est en Chine. Ils sont juste à côté, donc on réduit encore les coûts. Et puis, eux, ils ont été capables de faire ce qu'on appelle la courbe d'expérience. Ils ont regardé tout de suite par rapport à un coût, ce que ça allait devenir. Ils se sont dit, finalement, peut-être qu'on perdra de l'argent au début, mais de toute façon, le prix de la voiture, ce sera 15 000 euros dans, quand tu disais réfléchisse à long terme, dans 5-6 ans, ce sera 15 000 euros. On met tout de suite à 15 000 euros et on va y arriver. Et donc, sur ce prix-là, ils se sont imposés. Ils ont un marché colossal, marché interne colossal, qui leur a permis en plus aux constructeurs d'engranger de la marge, d'engranger de l'expérience, d'engranger tout ça. Et c'est vrai que cette avance aujourd'hui, elle se traduit là, et ça va être compliqué. Peut-être dans le haut de gamme, mais comme tu sais que Xiaomi va arriver, il y a quand même de quoi s'inquiéter, parce que nous, nos petits modèles, ils résistent pas, quoi.
Apple a abandonné la voiture.
Et nos petits modèles un peu vachalés.
Même Apple a abandonné la voiture électrique.
Les Golf, la Zoé, qui aurait dû être le modèle un peu vachalé d'un Renault, ce qu'on a connu dans le thermique, la Golf, Volkswagen et tout ça, on les a pas au niveau électrique, alors que les Chinois, ils l'ont tout de suite, quoi. Donc
vous souvenez que le coût d'une voiture électrique, c'est principalement la batterie, et vous savez d'où proviennent les batteries aujourd'hui dans toutes nos voitures électriques, à 95%, évidemment, de Chine. Donc, en fait, la force de la Chine a toujours été d'investir dans les core technologies, comme on dit, c'est-à-dire vraiment les technologies clés pour leurs différents produits. Ça a été le cas dans l'IA, avec
les smartphones.
Etc. Ça a été le cas dans les smartphones, etc. Ils ont reproduit ce modèle.
Mais je crois qu'on peut faire l'analogie avec le marché du smartphone, où aujourd'hui, on a 3, 4, 5 acteurs chinois qui grappillent des parts de marché à Apple, à Samsung. Bon, il n'y a pas évidemment de constructeurs français de smartphones, même européens d'ailleurs.
Mais tu dis évidemment, mais non, c'est justement, enfin, ton point est très juste, mais pourquoi évidemment ? Pourquoi on n'a pas réussi à avoir des fabricants
On avait des fabricants européens qui étaient leaders.
Bien sûr,
on avait Nokia, évidemment.
On avait Siemens, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Sagem était un très bon.
Alcatel, etc.
Mais on ne maîtrisait aucune technologie clé. Ni software, qui étaient les Américains, qui étaient plus forts que nous, ni hardware, qui étaient les Chinois.
On maîtrisait le GSM au début.
Ah, mais c'est un protocole, c'est pas une technologie.
Oui, mais c'était nous un peu qui maîtrisions ça.
On a été très longtemps leader sur le protocole.
Sujet passionnant en tous les cas. Et je crois que c'est BYD qui a prévu de sortir dans les années prochaines une voiture à 10 000 euros. 10 000 euros.
Après, on en parlait hier, on se demandait si il pouvait arriver ce qui arrive en ce moment, ce qu'il y a eu pour les téléphones Huawei ou pour les équipements Huawei, ce qu'il y a en ce moment aux États-Unis pour les drones DJI, là où on dit il faut pas les prendre parce qu'ils espionnent. Est-ce que à un moment, quelqu'un un jour va dire tiens, finalement ces voitures, elles engrangent plein de données, elles vont où ces données? Donc bon, en France, on a RGPD, etc. Mais est-ce que il ne pourrait pas y avoir ça un jour?
Mais alors, à ce moment-là, tu arrêtes les smartphones.
Mais oui, mais j'en doute un peu, mais voilà.
Enfin, t'arrêtes toute l'électronique grand public. Je suis désolé. Parce que tout vient de Chine. Les PC, les ordi.
Nous, on n'interdira rien. L'Amérique s'autorisera de le faire, mais nous, on le fera.
L'Amérique le fait d'un point de vue
géopolitique. Et l'Amérique le fait déjà juridiquement plein de fois, puisque c'est comme ça que ça marche.
Oui, c'est vrai qu'on subit la décision.
Mais nous, on subit une décision américaine en Europe.
C'est vrai. On quitte ce sujet pour rester en Chine. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a tous été impressionnés par Sora, vous savez, cette IA conçue par OpenAI qui génère en fait des vidéos à la demande. C'est assez impressionnant parce que vous tapez un prompt et là, vous appuyez sur un bouton et paf, vous avez une vidéo d'excellente qualité qui apparaît en quelques secondes, voilà, générée par l'intelligence artificielle. Il faut savoir que Sora a désormais un équivalent chinois qui s'appelle Baidu et qui est tout aussi spectaculaire. Et Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin dans Good Morning Business.
Vidou, c'est le nouveau Sora. Alors, on apprend des nouveaux noms tous les jours, ça va très vite dans le domaine de l'intelligence artificielle. On est dans le domaine des intelligences génératives vidéo, c'est-à-dire qu'à partir d'un prompt, à partir de quelques mots, voilà, peu importe ce que vous écrivez, eh bien, vous allez obtenir un clip vidéo de quelques secondes. Alors là, c'est 16 secondes dans le cas de Vidou. Donc, on peut lui demander n'importe quoi. Fais-moi, je sais pas moi, un 4x4 qui se balade dans une forêt. Alors, ça peut être des scènes de fiction, enfin, des scènes d'animation ou des scènes avec des personnages réels. Quand je dis réels, c'est en fait généré par l'intelligence artificielle. Mais on dirait, parce que c'est de la très haute définition, qu'ils sont réels. Ces personnages n'existent pas. Je le précise pour ceux qui nous regardent à la télé. Ça avance très, très vite. En gros, la guerre, la bataille, elle se joue entre les États-Unis et la Chine. Et c'est intéressant parce que chacun pousse ses pions. Sora, c'est OpenAI. Et derrière Vidou, vous avez une entreprise qui s'appelle Shengshu Technologies. C'est une start-up chinoise. Elle a à peine un an. Elle a déjà levé des centaines de millions de dollars auprès de Baidu, par exemple, donc le Google chinois. Ils ont recruté en masse des anciens pontes du secteur chez Tencent, chez Alibaba, chez TikTok, enfin ByteDance, la maison mère de TikTok. Donc on voit vraiment qu'il y a les deux camps qui sont en train de se mettre en place. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'expliquent les créateurs de Vidou, c'est que cette IA, elle a aussi été conçue pour mieux prendre en compte et générer des éléments liés à la culture chinoise. On voit des dragons, des pandas.
Il y a un côté soft power.
Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas complètement anecdotique. C'est de dire qu'à travers les modèles d'intelligence artificielle générative, on génère aussi, ou plutôt on promeut aussi, des modèles culturels. Une vision du monde, c'est exactement ça. C'est du soft power. La Chine est en train de le mettre en place. Les États-Unis sont en train de le mettre en place avec OpenAI. Et l'Europe, dans tout ça, on est encore un peu absent. On attend, ouais, un peu trop.
Voilà, donc après Sora, qui n'est pas encore disponible, rappelons-le, le service d'OpenAI n'est pas ouvert au grand public. Je pense que OpenAI est en train de bien verrouiller tout ça parce que, comme on sait qu'il y a eu des débordements avec ChatGPT, il ne faudrait pas que ça déborde aussi avec Sora. Et donc ce Vidou, puisque c'est comme ça qu'Anthony le prononce, Vidou, Vaidou, Gaël, ça t'étonne que les Chinois soient au niveau...
Non, ça ne m'étonne pas. C'est une puissance d'intelligence artificielle et technologique hors norme. Donc il n'y a pas de raison qu'ils soient plus qu'à niveau et plus aussi forts. Ils ont encore annoncé des choses sur des LLM la semaine dernière qui font que ils disent qu'ils vont être meilleurs que ChatGPT-4 et autres. Donc c'est pas ça le sujet qui moi m'inquiète ou me dérange. Ce qui me dérange, c'est encore une fois cette consommation d'un contenu totalement inventé, totalement fictif, sur lequel on ne trouvera plus les notions de vérité. Et je pense qu'au-delà de est-ce que c'est une techno incroyable et c'est une techno incroyable et sur le soft power, c'est dans quelques temps, comment on va faire la différence entre une image réelle et une image de l'intelligence artificielle. Il y a d'ailleurs en Chine une volonté de faire des marqueurs sur des fausses images qui ont été développées. Et je pense que le terrain à gagner là-dessus, au-delà de la capacité de l'Europe de fabriquer la même chose ou autre, c'est de protéger en amont et pas comme justement attendre un énième rapport sur les écrans, mais de protéger en amont sur la conscience de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il y a des enjeux sociétaux énormes, des enjeux politiques énormes. Quand on va fabriquer des vidéos sur des conflits qui auront tué faussement des gens et qu'on va avoir des soulèvements de population, des gens uniquement sur des images fictives qui auront été fabriquées par l'IA,
personne ne verra manipulés, en fait.
Et personne
ça va être un outil de manipulation incroyable.
D'ailleurs, on le voit bien, si c'est du soft power, c'est déjà un outil de manipulation, et bien leur en face par rapport au sujet. Mais le vrai sujet aujourd'hui, en tant que consommateur et en tant que personne exposée à ça, c'est comment on peut anticiper le fait de marquer la véracité des images qui sont produites par tous ces outils qui vont se mélanger à des choses fausses. Ouais. Et quand on voit les ruptures sociétales j'entendais ce matin que dans le dictionnaire maintenant, on a intégré la notion de platiste, qui est donc celui qui croit à la terre plate. Voilà. Si on en est à créer un mot pour une chose aussi absurde, comment ça va se passer quand il va y avoir des milliards de vidéos qui ont été totalement inventées pour le sujet?
C'est incroyable cette histoire de platiste. Hein, au passage, tout ça est parti en fait d'un documentaire sur Netflix qui a rencontré un succès incroyable. C'est fou, qui était presque une moquerie finalement concernant ce truc-là, mais ça a relancé en fait une espèce de croyance depuis la nuit des temps que la Terre serait plate, quoi. C'est fou.
Non, il y a autre chose aussi sur ce type d'application aussi, moi, qui m'inquiète un peu, c'est tout ce qui est derrière la consommation d'énergie, parce que on va y arriver. Hein. Je pense que 2025, ce sera un peu
le basculement
où, parce que pour l'instant, on faisait des choses assez simples avec notamment l'IA générative. Là, on va commencer à demander des choses un peu compliquées. Hein, si on n'a pas le droit de l'utiliser tout de suite, parce que ça commence à être les requêtes, enfin tout ce qu'on fait. Et derrière, on commence à consommer beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là où on entendait à l'époque Sam Altman, voilà, qui voulait construire des centrales nucléaires, Microsoft qui veut s'y mettre aussi, c'est qu'ils sentent qu'il y aura besoin de tout ça. Et bon, c'est bien hein, de faire rêver là. Il y a effectivement le côté éthique, mais le côté responsable côté sustainability, enfin éco, ça, c'est un peu inquiétant aussi.
Julien ?
Non, mais j'allais juste dans la même direction. Frédéric, hein, c'est qu'effectivement le sujet énergétique est absolument majeur et du coup il y a un sujet de sustainability et c'est pour ça justement qu'ils travaillent à des solutions type centrale nucléaire, oui. Type SMR comme on dit, un petit réacteur modulaire. Microsoft a créé une équipe, hein, une équipe de gens spécialistes du nucléaire pour justement travailler à installer des petits réacteurs à côté de leur data center pour venir les alimenter en électricité bas carbone. Donc c'est effectivement un enjeu majeur. Ils se préparent déjà à ces fameux 5 ou 10 prochaines années où il va y avoir cette explosion là. Après,
ces petits réacteurs là, c'est un sujet fascinant en fait.
Il va
bouleverser la distribution de l'électricité et la production.
Il pourrait effectivement dans des pays qui en plus étaient des pays historiquement très carbonés. En fait, c'est souvent fait pour remplacer quoi ? Pour remplacer des centrales charbon.
Oui, c'est ça.
Et aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de centrales charbon.
Qui en Europe sera interdit en 2035, hein, les centrales charbon.
Exactement. Et ça, le jour où on va facturer les requêtes, le prix qu'elles coûtent vraiment, on va.
Ouais,
les projets un peu plus chauds.
On reste en Chine. Enfin, Chine et États-Unis avec l'affaire TikTok. Qui bien évidemment va alimenter pas mal de discours tout au long des semaines et des mois qui viennent, puisque vous le savez, TikTok est désormais quasi, alors pas interdit, mais en tous les cas qui en passe d'être interdit.
Il ne l'est pas encore.
Non, mais disons que le cheminement va dans cette direction. Tu as raison, peut-être qu'il ne sera pas interdit, mais en tous les cas, il y a une volonté de se poser la question, en tous les cas. Et ce qui est intéressant, c'est que TikTok a réagi. En disant que, ils ne vendraient pas TikTok si les États-Unis l'y obligeaient, ou alors ils le vendraient, mais en enlevant en fait l'intelligence de TikTok, c'est-à-dire tous les algorithmes qui font la richesse de TikTok
et qui font plus sa valeur.
Et voilà.
Non, mais en fait, ils ont plusieurs voies. Ils ont soit la vente à un partenaire. Plutôt un partenaire non technologique, hein, il ne s'agit pas de fournir quelque chose à un autre, mais alors vendre sans l'algorithme.
Donc, comme étape à part chez TikTok.
Quoi. Non, voilà, donc quelle est la valeur? Ils ont le choix de faire, pourquoi pas, un partenaire stratégique, hein, ça pourrait être aussi de signer avec un acteur américain, avec des choses bien, bien ficelées pour montrer qu'ils répondent aux droits américains.
Ils ne montrent pas de blanche.
Ils pourraient avoir la scission, dire, ben voilà, oui, effectivement, on revend, on met ça dans une entité totalement distincte américaine, et puis sinon, ben, les autres solutions, c'est on arrête, quoi. Enfin, on arrête aux États-Unis, et puis. On s'en va parce que ça peut être une solution aussi à un moment.
L'arrêt, c'est un coup dur quand même.
Moi, je continue de penser, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, donc je le redis.
Pardon, excusez-moi. Et contester judiciairement. Il y a encore le recours aussi.
Oui, bien sûr. Ça peut prendre des années, hein, tout
notre
ça.
Voie, hein.
Ça fait plusieurs années qu'on parle de ce sujet-là, depuis Trump, souvenez-vous. Et je le dis depuis plusieurs années. Moi, je pense que politiquement, ce serait vraiment un grand danger pour le parti politique ou le président, en l'occurrence, qui interdirait TikTok dans un pays parce que l'usage aujourd'hui de TikTok est tellement généralisé et tellement utilisé par toutes les couches de population, tous les âges. que ce serait vraiment un grand.
C'est comme si tu interdisais le coca, quoi. Enfin,
il y a un peu ce côté-là.
J'exagère.
Oui, mais je suis d'accord, c'est exactement ce côté-là.
Il n'y a pas de manif dans les rues de gens qui disent « Ah bah, TikTok, quoi ».
Et, on ne va pas s'y tromper, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Trump aujourd'hui sur le sujet. Donald Trump, qui était pour l'interdiction de TikTok quand il était au pouvoir, a dit aujourd'hui « Bon non, mais attendez, c'est un peu comme Facebook, hein, franchement, pourquoi on interdirait TikTok ?» Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'électoralement, interdire TikTok, ce serait dangereux pour lui. Oui. Donc moi, je continue de penser, et je serais ravi de me reconnaître quand je me serais trompé, mais pour l'instant, je continue de penser qu'il y aura probablement une voie médiane qui sera trouvée, parce que couper TikTok à la population américaine aujourd'hui, ce serait un risque électoral colossal.
170 millions d'utilisateurs TikTok aux États-Unis.
Non, mais il y a, c'est certain, un risque politique. Mais après, l'Amérique est friand et adore casser l'hégémonie de ses concurrents. Donc, il l'a toujours montré dans quasiment toutes ses industries. Donc, il y aura forcément une solution médiane, parce qu'ils n'iront pas sur une interdiction pure et dure pour passer pour les bad guys qui sont contre le libéralisme et le développement de la technologie et autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont casser TikTok. Ils vont l'empêcher de continuer de progresser aux États-Unis et de progresser au détriment de l'hégémonie américaine. Ils ont fait ça partout, ils ont racheté et mis en place. Je vous rappelle qu'on avait eu un dirigeant d'une grande boîte française qui s'est retrouvé, enfin, un directeur financier qui s'est retrouvé quasiment, enfin pas quasiment, qui s'est retrouvé en prison, arrêté sur un tarmac parce que il y a eu une volonté de racheter la boîte à un moment donné. Donc ils le feront de la même manière et ils casseront TikTok. Ouais. Quoi qu'il.
Surtout dans cette ambiance, enfin tendue, hein, géopolitique.
C'est plus qu'une guerre, hein, c'est
entre la Chine et les États-Unis.
C'est une forme de guerre, oui.
Oui, c'est une forme de guerre. Et je pense que
c'est pour ça qu'ils le feront.
C'est un signal clair envoyé. On a parlé de TikTok, on parle de DJI. Je pense que les voitures, on va y arriver aussi. On a eu Huawei, ZTE. Enfin, oui, c'est clairement, ils sont dans une guerre. Et puis, si TikTok doit partir aux États-Unis, bien ils iront sur l'Afrique, ils iront sur l'Inde, ils se développeront ailleurs. Ils auront du business. Après. Il y a effectivement le côté politique, puis il y a aussi le côté du business, hein, parce qu'il y a quand même, alors je pense pas que Coca-Cola soit mise en péril parce qu'il n'y aurait plus TikTok aux États-Unis, mais il y a plein de boîtes, enfin plein d'entreprises qui vivent, qui ont du vrai chiffre d'affaires avec TikTok. Autour, bien sûr. Et alors, ils vont repartir sur Facebook, sur d'autres, ce sera peut-être pas les mêmes formes de revenus, il y a ça aussi. Hein.
Enfin, sans compter tous les influenceurs qui gagnent leur vie aujourd'hui grâce à TikTok. Hein. Et d'ailleurs, eux rouspètent ouvertement en disant attendez, vous arrêtez TikTok, vous arrêtez notre pain finalement.
Hein. C'est pour ça qu'ils trouveront une solution médiane. Mais ce qui est certain, c'est que l'Amérique ne laissera pas faire.
Non, mais c'est clair.
Un sujet comme ça, c'est pas possible.
Passionnant. Merci beaucoup à tous les trois. C'est un vrai plaisir que de vous écouter. Merci beaucoup, Gaël Duval, entrepreneur business angel et fondateur de jechange.fr. Tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir, François.
Pour débriefer l'actu.
Merci.
Merci beaucoup, Julien. Julien Villeray, directeur d'innovation chez EDF, et Frédéric Simotel. On se retrouve non pas demain,
parce que c'est le 1er mai.
Il y a match.
C'est le 1er mai, donc on va se reposer, mais on sera de retour évidemment jeudi pour terminer la semaine avec Frédéric Simotel et un Tech & Co tout à fait normal. Pour ce qui nous concerne, on n'a pas terminé, hein, on ne va pas s'arrêter là. Attendez, on a encore une demi-heure à passer ensemble avec une belle start-up, une IA qui traduit la langue des signes. Vous rendez compte un petit peu la vie qui va changer pour les sourds ou les malentendants avec Iris. Et puis on parlera MedTech avec Neurocluse, une start-up qui vient de lever 5 millions d'euros et qui arrive à détecter en fait les prémices de maladies dégénératives simplement en analysant le mouvement des yeux. Ouais. Incroyable. Et on aura le fondateur de cette boîte qui sera avec nous sur le plateau dans quelques instants. Voilà le sommaire de Tech & Co. Bien évidemment, Léa Benyamin, le Tech Flash qui arrive dans un instant. Et puis notre rendez-vous avec la rédaction, comme chaque soir. À tout de suite.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290 euros par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3000 euros suivi de 36 loyers de 290 euros réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, 21h03, le retour de Tech & Co, la quotidienne. On est ensemble jusqu'à 21h30, vous le savez. Et comme chaque soir, aux alentours des 21h, c'est le Tech Flash. Ce qu'il faut retenir de l'actu tech en ce mardi soir, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, Apple a enfin enclenché la deuxième dans l'IA. Et pour ce faire, l'entreprise a embauché des anciens ingénieurs de chez Google. 36 au total, selon le Financial Times. Apple aurait aussi ouvert un laboratoire dédié à la création d'une IA générative, et pas n'importe où, au centre de l'Europe, à Zurich, connu sous le nom de Vision Lab. Ce labo héberge les équipes de deux startups rachetées par Apple il y a quelques années, le groupe de réalité virtuelle FaceShift et la société de reconnaissance d'image Fashwell. Ses employés, basés en Suisse, participent à des recherches sur la technologie qui alimente les chatbots. Et toujours dans l'IA, ChatGPT va enfin avoir une mémoire. Le chatbot peut désormais se souvenir d'informations personnelles sur vous, votre travail ou votre famille, histoire de vous resituer à la prochaine utilisation. Bien évidemment, c'est facultatif. Il est possible de désactiver cette option si on ne veut pas que ChatGPT garde un dossier sur nous. Seul bémol, cette fonctionnalité est disponible partout, sauf en Europe et en Corée, les deux seuls endroits dans le monde dotés d'une réglementation stricte sur la protection des données personnelles. Meta fait preuve de laxisme face à la désinformation. C'est en tout cas le constat de la Commission européenne. À presque un mois des élections, Bruxelles est inquiète concernant de possibles manipulations de l'opinion orchestrées par la Russie. Une enquête a été ouverte aujourd'hui contre Facebook et Instagram. C'est la cinquième depuis l'entrée en vigueur du DSA. C'était fin août. Pas d'écran avant 3 ans, pas de jouets connectés avant 6 ans et pas de téléphone avant 11 ans. Ce sont les conclusions du rapport commandé par Emmanuel Macron à des experts dans le but de combattre la dépendance des enfants aux écrans. 125 pages et 29 propositions. Objectif, ne pas laisser les parents sans mode d'emploi. Et à partir de 15 ans, pourquoi pas, un accès aux réseaux sociaux, mais éthique, précise la commission. Sous-entendu, tout sauf TikTok et Instagram. Le rapport n'est pas un texte de loi, mais seulement des mesures proposées au pouvoir public. Et pour finir, le marché de la télésurveillance est en pleine explosion. Quelles innovations dans les caméras? Comment bien choisir le modèle et le service qui l'accompagne? On vous explique tout ça dans De quoi je me mêle avec notre expert Lionel Paris, et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Marché, t'avais un trou. T'avais d'un côté les acteurs historiques, de l'autre côté les caméras où tu installes un peu tout seul ton système. Mais tu n'as pas de service.
Ah, c'est ça.
C'est toi, en fait, qui t'auto-installe tes produits et, grâce à vos applications, te permet de te surveiller ta maison.
Et donc là, alors, les nouveaux entrants...
Ils ont à la fois une solution technologiquement bien éprouvée et avec pas mal de différenciateurs, mais surtout, il y a une partie de service qui est intégrée et qui fait partie... C'est un package, en fait. Là, l'idée, c'est pas de prendre une caméra. L'idée, c'est d'acheter un système. Et on va voir que les deux offres ont leur philosophie particulière, hein, c'est pas les mêmes, mais du coup, tu prends quelque chose de packagé et qui a donc des services jusqu'à l'intervention de quelqu'un chez toi.
Alors vas-y, dis-nous un peu le package, c'est quoi? Donc, t'as la caméra, ça c'est la base?
Bien sûr, c'est la base. Donc si je démarre par Chiara aujourd'hui, donc t'as la caméra. Donc là, la première innovation dans tous les systèmes, historiquement, bah t'as une centrale. C'est ton lien avec ta connexion Internet, c'est ton lien avec ton Wi-Fi, etc. Bah, la première innovation de Chiara, c'est qu'aujourd'hui, la centrale, elle est là.
Dans la caméra.
Ils l'ont intégré dans la caméra.
Voilà, sujet très intéressant concernant les caméras de surveillance. Aujourd'hui, hyper tech, à retrouver donc dans De quoi je me mêle, disponible sur la plateforme RMC BFM Play, sur le site de BFM Business, bien évidemment. N'hésitez pas, en audio ou en vidéo. Allez, on s'intéresse maintenant à l'intelligence artificielle qui vient à l'aide des sourds et des malentendants.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Avec Iris, une intelligence artificielle qui sait lire la langue des signes. Et on va en parler avec mon invité, le PDG cofondateur d'Ives, Pascal Dupuis. Bonsoir Pascal.
Bonsoir François.
Merci d'être là.
Avec plaisir.
Intéressant évidemment ce que vous faites. Il faut savoir que j'ai quelques chiffres concernant la surdité. 7 millions de personnes sourdes et malentendantes en France. 430 millions dans le monde. Hein, ça c'est l'OMS qui nous donne ces chiffres. 80% des handicaps sont invisibles. 300 langues des signes dans le monde.
Oui.
Je ne le savais pas. Je pensais qu'il y avait une espèce de... On va dire d'homogénéité dans les langues.
Alors, il y a une langue universelle.
D'accord.
Souvent, les gens nous font cette remarque en disant, mais comment se fait-il qu'il y ait plusieurs langues? C'est la culture. Hein, la langue des signes, c'est une culture avant tout. Il se trouve que dans le monde, tout le monde ne parle pas le français. On a remarqué. La langue des signes, c'est pareil. Si je prends l'exemple du Canada où on travaille, il y a deux langues des signes. Une langue dédiée à la partie anglophone, qui est l'American Sign Language, et une langue dédiée à la partie franco-québécoise ou québécoise-française. Et c'est la langue des signes québécoise.
Donc un sourd ou un malentendant français ne peut pas communiquer avec un sourd et malentendant américain, où il y a malgré tout, on va dire, un mode de conversation dégradé.
Alors quand ils ne maîtrisent pas la même langue, alors ça dépend des écarts, c'est toujours pareil, entre le sourd japonais et le sourd français. Par contre, ils se questionnent pour dire, moi je dis ça comme ça, et moi je dis comme ça, etc., etc. C'est vrai qu'on peut retrouver quand même dans les langues un tronc commun, mais bon, plus ou moins important.
D'accord. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous faites. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet. Parce que grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous avez créé le premier assistant conversationnel en langue des signes au monde.
Oui.
Expliquez-nous, racontez-nous comment ça fonctionne.
Alors, ça part d'une réflexion à la base où, quand on a créé la société, on voulait faire des 0 et des 1 qui ont du sens. Donc du coup, on a monté cette société dédiée à la communication accessible pour les personnes sourdes et malentendantes, où là, on n'a pas encore, au début d'intelligence artificielle, hein, c'est 2006, je rappelle, en 2006, la vidéo, les téléphones, Android n'existe même pas.
L'iPhone sortait un an après.
Exactement. Donc on est un peu précurseur, on est découvert parce qu'on a un système de vidéo de communication direct assez performant. Là-dessus, il y a des gens d'une grosse société qui s'appelle Orange qui viennent nous voir. Et là, on se lance et on fait 3 moyens de communication qui permettent aux sourds et malentendants d'adresser via la téléphonie des contextes différents. Soit on est au travail, on peut travailler avec son collègue, on a une solution pour ça. Soit on veut appeler un service de relation client et on appelle et on a rendu accessible. Soit on est accueilli dans un guichet et on peut discuter avec la personne qui nous accueille. Pour faire ce service, j'explique ça pour bien comprendre là où on va.
Est-ce que vous avez une vraie histoire dans
c'est
ce domaine-là?
C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu dans l'IA comme ça, non, parce qu'on avait envie de venir dans l'IA. D'abord, on a compris comment fonctionnait et de quoi avaient besoin les personnes sourdes et malentendantes et comment on pouvait leur apporter de l'autonomie. Mm-hmm. C'est notre créneau, c'est ça. Comment on peut apporter de l'autonomie aux personnes sourdes et malentendantes.
Et déjà ça fait des trucs incroyables.
Voilà, oui, notamment pour le texte, c'est-à-dire que quand une personne oralise, on peut via le téléphone, on peut mettre une solution qui permet de faire du texte. Ensuite, le sourd signant, lui, il est obligé d'écrire. D'accord. Donc nous, on fait ce service de communication. Pour faire ce service de communication correctement, on fait ce qu'on appelle du relais de médias. C'est-à-dire que je suis sourd, je veux vous joindre, j'ai besoin d'une personne au milieu de notre discussion, qui sont souvent des interprètes, etc.
Donc on voit la télévision.
Pour
les discours, exactement, etc.
Qui sont des personnes importantes et dont nous on est focus là-dessus, c'est-à-dire que pour nous l'IA va pas remplacer ce métier-là, loin de là. La sensibilisation d'un interprète dans une réunion, l'IA c'est assez, même si on essaie d'y mettre de l'émotion, c'est quand même non sensible.
Alors racontez-nous, c'est-à-dire que malgré tout, vous vous substituez à cette langue des signes, comment ça marche?
Alors comment ça marche? On s'est dit, quels sont les contextes où on pourrait utiliser l'IA dans lequel on ne retrouvera pas les métiers comme les interprètes. Et le premier contexte qu'on a vu, c'est ce chatbot. Ce chatbot, nous, entendant, on va sur les sites, sur le numérique. Hein, je rappelle, vous devez l'avoir comme info, les personnes signantes ont du mal à lire et à écrire. Elles savent le faire, mais ce n'est pas leur priorité. La langue maternelle de ces personnes, c'est la langue des signes. Donc on s'est dit, pour le numérique, il y a peut-être des choses à faire. Et on a commencé par ce signbot. Et on s'est dit, tiens, comment on va apprendre à une machine la langue des signes? Pour cela, on l'a fait donc avec une équipe de R&D, data scientists, ingénieurs, docteurs, qui font de la LLM, enfin, etc. Plus une équipe de personnes sourdes et malentendantes qui bossent avec nous de manière continue, à qui on a écrit des logiciels pour que eux puissent peut-être dire bonjour 1000 fois. De manière à ce qu'on puisse se dire, si on a une caméra devant, derrière, comment ça se passe? Si j'ai juste un téléphone et que je dis bonjour, est-ce que je suis capté de la même manière? Donc c'est un travail de labeur fait par des personnes.
Mais vous pouvez me donner un exemple concret de ce que vous apportez au quotidien pour quelqu'un qui est sourd ou malentendant grâce à ce que vous êtes en train de mettre en place, grâce à Iris?
Oui, Iris... Je veux, par exemple, appeler demain une société. Aujourd'hui, cette société, pour pouvoir l'appeler, ce que je disais, je suis obligé d'appeler, de passer par une interprète.
Oui.
Les interprètes, ce sont des gens humains qui aussi dorment.
Peut-être que je vais pouvoir, par cet avatar, laisser un message, d'accord, en langue des signes, et permettre demain d'être appelé par ce conseiller de manière à ce que je puisse avoir la réponse. Alors, ça peut être une réponse sur, ma box, télécom, une information, peut-être j'appelle l'école, et demain on me rappelle via un interprète en me disant, ben voilà.
Mais c'est-à-dire que je vais me filmer avec des, en m'exprimant avec des signes,
oui.
Avec le langage des signes,
oui.
L'IA va comprendre,
oui. Reconnaît.
Reconnaît les signes,
reconnaît
et va traduire ça en langage.
Seulement elle reconnaît.
En langage vocal.
Mais elle me répond. Non, elle me répond en signant.
D'accord.
On apprend, via tout le travail que l'on fait de collecte de données, on apprend également à cette IA à répondre. Aujourd'hui, on est dans des environnements contrôlés. C'est pour ça qu'on a choisi aussi les chatbots avec nos partenaires Soprasteria et IBM. C'est parce que c'est des environnements qui sont contrôlés, le chatbot. D'accord ? Derrière, il y a une IA.
Oui,
nous, on utilise cette IA.
Mais c'est de l'IA générative ou est-ce qu'on est encore au chatbot qu'on voit de temps en temps sur certains sites
web ?
On va
nous progresser en même temps que les chatbots vont progresser. C'est-à-dire que ça va devenir de l'IA générative. Et nous aussi, on va essayer... En tout cas, c'est ça notre objectif, de permettre à notre solution d'apprendre par la collecte de données et par l'échange qu'elle aura avec les personnes sourdes et malentendantes.
Comment vous imaginez l'avenir, justement, avec l'IA générative ? Comment un sourd et malentendant pourrait communiquer avec une personne qui...
Aujourd'hui,
normal, en fait.
Oui, bien sûr. On a parlé, là, tout à l'heure, de solutions de texte. D'accord, existante. Mmh. Où je vous dis, moi, ça m'arrive tous les jours de prendre une solution de texte, d'avoir une personne sourde, d'oraliser. Ce que j'oralise est écrit et la personne sourde me répond en écrivant.
Mmh.
Donc ça se fait tous les jours.
Ça se fait très facilement.
Ouais. Demain, nous, on l'a montré au CES, on a la capacité à intégrer dans le téléphone Iris et on va pouvoir signer. Et donc on aura du texte et j'aurai du texte. Et demain, Iris me répondra. À moi, personne sourde. Voilà.
Et on peut imaginer que ce texte soit transformé en voix.
Bien sûr.
Pour que finalement, la personne qui fait des signes, puisse communiquer de manière orale avec quelqu'un.
Alors, la personne qui est sourde est sourde, elle n'oralise pas.
Non, mais la personne qui est en face et qui est normale et qui entend pourrait comprendre ce qu'elle dit par la voix. C'est ça que je voulais dire.
Les trois canaux de communication qui pourraient être le texte, la voix, d'accord, et le geste, vont être demain. Intégré pour répondre selon le, j'allais dire multimodal, selon le profil de la personne qu'on aura en face. Si moi je parle à Iris, elle va comprendre que je lui parle, elle pourra peut-être me répondre. D'accord ? Si je signe à Iris, elle va comprendre que je suis signant, elle va me répondre en signant.
Ouais.
Si je mets du texte, elle va comprendre que je veux du texte, elle va me répondre avec du texte.
Ouais, ça ouvre des perspectives incroyables.
C'est assez intéressant.
Ouais.
Je sais que nous, justement, comme on a une société quand même qui a 18 ans, qui est rentable, aujourd'hui, cette intelligence artificielle, on sait qu'on a pour objectif de créer une société en France, d'accord, et puis d'aller commercialiser aux États-Unis avec une autre entreprise. C'est clair.
Merci beaucoup Pascal.
Merci.
Pour cette innovation, ça s'appelle Iris et ça a été présenté jeudi dernier en fait, hein, je crois.
Oui, il y a plusieurs présentations, il y en a une autre chez IBM le 16
Très bien.
Le 16 mai.
Voilà. Merci d'être venu sur le plateau nous présenter tout ça. Vous êtes le PDG cofondateur d'Ives et tout de suite direction la rédaction de Tech & Co comme chaque soir.
Merci. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Willem Gay nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Willem, journaliste à la rédaction de Tech & Co et de nouvelles fonctionnalités en français pour Gemini. C'est tout frais, hein, puisque c'est à compter de ce mardi soir. Google déploie une salle d'extension pour son intelligence artificielle. Elle devrait simplifier le quotidien de ses utilisateurs, notamment, Willem, la planification de voyage. Explique-nous.
Eh bien, écoutez, François, vous pourrez désormais demander à l'IA de préparer vos vacances, trouver les vols adéquats pour votre week-end ou encore organiser un périple à votre place. Bah, tiens, on va choisir la Corse, par exemple.
C'est très, très bonne idée. Je ne sais pas pourquoi vous choisissez ça au hasard, en plus, j'imagine. Très
bien. La Corse pour, on va dire une semaine entre amis. Eh bien, vous indiquez à Gemini les dates, la durée de votre voyage et les lieux à ne pas manquer. et puis l'IA générative se charge du reste.
Donc en fait, c'est à partir d'une requête textuelle, j'écris quelque chose, le chatbot de Gemini réfléchit pour moi.
Absolument, bah, comme toute bonne intelligence artificielle générative, hein, finalement, Gemini pourra regarder dans votre calendrier pour connaître vos disponibilités et même chercher dans vos échanges par mail avec vos amis les dates qui pourraient convenir à tout le monde. C'est quand même vachement pratique. Et le tout apparaîtra dans une même conversation avec le chatbot, un petit peu à l'image de ce que fait ChatGPT. Et si vous avez des enfants en bas âge, ou pas d'ailleurs, vous pourrez poser à Gemini la question essentielle, comment trouver des activités pour occuper les enfants durant le trajet.
Très important ça, très très important. Gemini, on l'a bien compris, peut donc aller fouiller en fait dans nos mails, mais pas seulement.
Et oui, en donnant quelques mots-clés à Gemini, il vous rédigera un mail professionnel avec une nomenclature parfaite. Dans Google Drive, comme dans Google Docs, il sera capable de synthétiser plusieurs documents, de faire des recherches approfondies et même rédiger à votre place. Enfin, ça, c'est ce qu'annonce Google sur le papier. Les nouveautés arrivent dès ce soir, donc vous l'avez dit. Et je ne sais pas vous, François, mais moi, j'ai hâte d'essayer, surtout que les ponts arrivent, c'est l'occasion de l'essayer. Il faut dire qu'ils ont le sens du timing chez Google.
Ouais, pas mal du tout. Voilà une fonctionnalité de Gemini que vous pouvez d'ores et déjà tester. Comment on fait ? On va sur le site de Google, on tape Gemini, je pense qu'on doit arriver sur un site
d'accueil. Il y a la petite fenêtre TED qui pop, il suffit de cliquer dessus et ensuite Gemini se charge de vous guider dans vos requêtes textuelles.
Merci beaucoup, c'était William Gay de la rédaction de Tech & Co. Article à retrouver bien évidemment sur notre site. Allez, on termine ce Tech & Co par une belle pépite MedTech que je vous présente tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, la start-up.
Et Antoine Poupé nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Antoine.
Bonsoir François.
Vous êtes président et cofondateur de Neurocluse. Neurocluse qui lève donc 5 millions d'euros pour sa solution de détection précoce des maladies neurologiques. Vous avez été fondé en 2020. Enfin, sa start-up a été fondée en 2020. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes originaire de Belgique, mais vous êtes revenu en France puisque vous faites partie d'incubateurs et pépinières d'entreprises de Paris la Petite Salpêtrière.
C'est ça. Correct, oui.
Alors racontez-nous un petit peu ce que vous faites, parce que je l'expliquais tout à l'heure, et en même temps que j'expliquais, je trouvais ça fascinant, il me tardait de vous recevoir sur le plateau, c'est que vous arrivez à détecter des maladies neurodégénératives très tôt, simplement en analysant en fait le mouvement de nos yeux.
Oui, c'est notre ambition. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le nombre de maladies neurologiques est en train de croître de manière assez drastique. Le nombre de Parkinson, on s'attend à un doublement du nombre de cas d'ici 2040.
On sait pourquoi d'ailleurs, parce qu'on vit plus longtemps.
Alors sur Parkinson, c'est parce qu'on vit plus longtemps et il y a des effets environnementaux qui sont assez incitants. Donc c'est-à-dire que Parkinson, il y a la génétique, c'est le fusil et les facteurs environnementaux, c'est ce qui vient tirer sur la gâchette. Par exemple, Parkinson est considéré comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs.
Mmh. Oui, parce qu'ils ingèrent en fait des substances toxiques tout au long de leur vie.
Exact.
Et ça va accélérer peut-être le processus.
Et ça vient tirer sur la balle. Et ça vient tirer sur, ça vient appuyer sur la gâchette des facteurs génétiques préexistants. Et donc on sait qu'il y a une augmentation du nombre de cas de maladies neuro. Mmh. Le challenge aujourd'hui, c'est
on ne parle pas d'Alzheimer. Qui est autre chose.
De manière générale, même Alzheimer, il y a aussi, on s'attend à une forte croissance, principalement à cause de cette pyramide des âges qui s'inverse. Aujourd'hui, le diagnostic de maladie neuro repose essentiellement sur l'examen clinique, donc la capacité du patient à faire une série de tâches comme ce que je suis en train de faire.
Donc ça veut dire que vous êtes en forme.
C'est ça. Je m'entraîne.
D'accord.
Et donc, ça repose sur l'évaluation clinique du praticien, le généraliste puis le neurologue. Et ce qu'on vient faire, nous, c'est qu'on vient amener une évaluation quantitative de ce qui se passe aujourd'hui de manière qualitative. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise les mouvements oculaires ? Parce que c'est des mouvements qui sont extrêmement stéréotypés. On bouge tous nos yeux de la même manière. C'est un mouvement qu'on fait 3 fois par seconde. C'est plus que des battements de cœur et c'est le mouvement le plus rapide du corps humain. Quand je déplace mes yeux se déplacent jusqu'à 600 degrés par seconde. Ce qui fait qu'une déviation par rapport à une norme, par rapport à
la normalité.
À la normalité, est un très bon indicateur qu'il y a quelque chose.
Alors. Exemple. Si je bouge pas les yeux d'une manière, on va dire, normale, ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui est en train de se préparer.
Ça veut dire que la maladie est déjà là.
Est déjà là, d'accord.
En fait, le challenge avec les maladies.
Et aujourd'hui, on, c'est une piste qu'on n'a pas creusée, en fait.
Si, aujourd'hui, le médecin vous demande oui. Suivez mon doigt. Regardez mon doigt. Donc, ils le font aujourd'hui.
C'est de manière assez sommaire, on va dire.
En observation clinique. Alors quand on sait qu'un œil se déplace à 600 degrés par seconde, c'est assez compliqué de pouvoir le faire en observation clinique. Il faut être vraiment bien formé pour pouvoir identifier des déviations. Et donc très pratiquement, si aujourd'hui la différence de vitesse entre un mouvement vertical et un mouvement horizontal, vous avez une différence de vitesse dans vos saccades, dans vos mouvements oculaires, c'est une signature très forte d'une forme de maladie de Parkinson. C'est très difficile à évaluer de manière par le praticien. Et donc nous on vient.
Ça peut être l'un des premiers symptômes avant des symptômes peut-être plus visibles.
Alors ça c'est une bonne question. Je vais faire une petite digression sur la plasticité du cerveau. Alors le cerveau a cette faculté d'apprendre qui fait que et a cette faculté de pouvoir continuer à fonctionner quand on commence à perdre des neurones. À partir de l'âge de 18 ans, c'est ce qu'on dit chaque fois qu'on donne un coup de tête dans un ballon, on dort pas la nuit ou on fait la fête, bah on a perdu une série de neurones.
Heureusement, on a un réservoir au départ qui est quand même assez important.
Exact. Et heureusement, le cerveau est capable de continuer à fonctionner. C'est-à-dire qu'il y en a un, quand il y en a un qui disparaît, il recrée des connexions pour maintenir l'apprentissage qui a eu lieu.
Oui, un peu comme les racines en fait, d'un arbre quoi, qui arrive un peu à s'adapter. Enfin, je schématise.
Oui, en schématisant, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand une maladie neurologique s'installe, typiquement Parkinson ou Alzheimer, il va commencer à impacter une des zones de ce cerveau. Et en fait, cette zone, la plasticité du cerveau va masquer l'effet de la maladie.
Et compenser, en fait.
Va compenser.
Ouais.
Alors, pourquoi est-ce que les mouvements oculaires sont intéressants? Parce que justement, il y a ces caractéristiques. Comme c'est un déplacement qui est très fréquent, qui est très rapide et qui est très précis, c'est-à-dire quand on va regarder quelque chose, on n'a pas besoin de s'y reprendre à trois fois. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on bouge nos yeux, il y a 60% des structures neuronales qui sont utilisées. Et quand il y a une de ces structures qui commence à être impactée, le cerveau, dans sa plasticité, va avoir un peu plus de mal à le compenser qu'un mouvement de bras ou qu'une parole. Parce que le mouvement de bras est beaucoup moins rapide. Mmh. Et donc, il a cette capacité de pouvoir se dire, OK, il va pas dans la bonne direction, mon bras, je rectifie légèrement et je m'en rends pas compte. Et donc, c'est pour ça que les mouvements oculaires sont des informations, nous on appelle ça les paramètres de ces mouvements oculaires, d'accord. On appelle ça des biomarqueurs, des informations qui sont extrêmement utiles dans la pratique.
Antoine, comment faites-vous pour justement analyser ces mouvements rapides des yeux?
Alors ce qu'on a développé...
C'est quoi, on chose des lunettes? Comment ça
Donc ça ressemble pour le Béotien à un casque de réalité virtuelle.
D'accord.
Mais qu'on a développé entièrement nous-mêmes. Donc on a un écran, deux caméras qui enregistrent à une très haute fréquence. Et on a un processeur derrière. On vient se mettre dans cet environnement avec cet écran et sur l'écran il y a un point qui bouge. On demande au patient de la même manière que le médecin dit suivez mon doigt. On demande au patient de suivre le point.
Et vous filmez tout ça, vous enregistrez tout ça.
Et on enregistre ça à une très haute fréquence pour pouvoir extraire l'information du mouvement oculaire, pour avoir extraire ces paramètres. Et en quelques minutes, on présente ces informations au praticien. Le challenge dans l'oculomotricité, dans l'eye tracking, c'est la quantité de données. Pour vous donner un exemple, un examen classique chez nous qui durerait à peu près 10 minutes, ça génère à peu près 2 gigabytes de données. Et donc, le challenge...
Il faut analyser après toutes ces données.
Exact.
Jeter les déchets pour prendre que ce qui est intéressant, j'imagine, c'est ça?
Exact.
Dernière question, Antoine, ces 5 millions d'euros vont vous permettre quoi? De vous déployer en Europe et en Amérique, c'est ça?
Oui, donc on vise le marché européen et américain en même temps, sachant qu'on aura accès au marché américain avant le marché européen, parce que le cadre régulatoire le permet.
Bien sûr, plus favorable là-bas.
Exact. Et donc, on vise un déploiement de notre première version de dispositif, et puis derrière, travailler sur une deuxième version qui, elle, aura plus de capacité de diagnostic, et donc va pouvoir aider un plus grand nombre de praticiens.
Voilà, et vous pourriez détecter des maladies jusqu'à 5 ans avant les premiers symptômes cliniques, hein. C'est ça qui est intéressant.
Aujourd'hui,
s'il y a des traitements qui peuvent être curatifs ou qui pourraient aider à la prévention, on pourrait les prendre 5 ans plus tôt, quoi.
Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les patients, quand ils sont diagnostiqués, il leur reste plus que 35% des cellules neuronales qui sont impactées par la maladie. Donc, ils sont diagnostiqués très tard dans la maladie. Ce qui fait que ces personnes, quand ils sont enrôlés dans des études cliniques, l'efficacité de la molécule est difficile à prouver. Et donc, c'est là tout le challenge, c'est d'arriver à identifier ces personnes de manière plus tôt. Donc, on a des premiers résultats cliniques qui montrent qu'il y a vraiment une sensibilité intéressante sur l'oculomotricité jusqu'à 5 ans en avance. Ça doit être confirmé dans des plus grosses études cliniques.
Merci beaucoup, Antoine, d'être passé par le plateau de Tech & Co.
Merci à vous.
Plein de réussite avec Neuroclouse, donc, et l'actu, je vous rappelle, cette belle levée de 5 millions pour s'étendre aux États-Unis. Merci.
Merci.
Et ce Tech & Co est terminé. Très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Vous avez raté le début, c'est pas grave. Les replays, les podcasts qui vous attendent. Demain, relâche. On vous proposera un joli best-of. Et on sera de retour jeudi 2 mai pour évidemment être en direct pour vos 90 minutes de Tech quotidienne. Bonne soirée, bon week-end si c'est déjà le cas. Et à très vite.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.